Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Autrement continue ses petits quartiers d'été et j'ai la chance d'être reçue par Géraldine dans son bureau. Bonjour Géraldine.
Bonjour Sophie.
Alors on a la chance d'avoir un bureau avec une vue sur la nature. C'est absolument incroyable et pourtant nous sommes dans Blois encore.
Nous sommes à la limite de Blois.
La forêt n'est pas
tout
loin.
Tout près de la forêt, tout près du lac.
Tu es graphiste ?
Je suis graphiste, directrice artistique.
Tu t'es mis à ton compte il y a combien de temps ?
À mon compte il y a un tout petit peu plus de 3 ans, après plus de 25 ans de salariat, toujours dans le domaine du graphisme.
Alors chez toi, il n'y a pas de changement de métier, il y a juste une façon de travailler ?
Complètement. Un peu une prise de conscience à un moment donné, une opportunité qui s'est présentée. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, mais que je n'avais jamais osé faire.
Donc. Tu dis que ça faisait longtemps que tu avais ça en tête.
Hein. Oui.
Qu'est-ce qui te donnait envie de te mettre un jour à ton compte ?
D'être un peu plus libre, de pouvoir avoir une diversité de clients.
Ouais.
De pouvoir mener les choses comme je l'entends, avec ma vision, en cohérence avec mes valeurs.
Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait plus tôt ?
J'ai travaillé dans une très grosse société et j'étais un peu dans un espèce de confort, d'habitude, avec pas mal d'avantages salariaux à la clé. Donc, j'avais une petite fille que j'élevais toute seule, donc voilà, je pensais que c'était trop risqué à l'époque.
Avec le recul, tu te dis que tu aurais dû te lancer plus tôt ou c'est bien comme ça ?
Je pense que c'est bien comme ça. Je pense que les choses se font au moment où elles doivent se faire et comme elles doivent se faire. J'avais peut-être besoin de faire un chemin avant. Et puis au final, comme tout se passe plutôt du bois comme je l'avais espéré, je me dis que ça devait être le bon moment.
Quand tu parles de la société où tu étais, c'était la même société depuis 25 ans ?
Oui.
Donc tu pars d'une
depuis
société...
20 ans. Ouais.
Depuis 20 ans. Donc une société où t'es quand même, t'as bien ta place, où t'es bien connue, reconnue.
Oui, mais dans laquelle j'ai bougé à l'intérieur, où j'ai fait quand même différents postes et différentes filiales, on va dire.
Comment ça se passe ? On te laisse partir ? C'est une période où ils sont plutôt en écrémage ? Il y a eu un truc qui a déclenché ce départ à ce moment-là ?
À ce moment-là, mon mari a été muté en Centre-Val-de-Loire. J'étais pourtant dans un métier que j'aimais bien à cette période-là. J'avais un responsable de service à qui je m'entendais très bien. On avait plein de projets en tête, formé un binôme qui fonctionnait super bien. Mais j'ai tenté les allers-retours Blois-Paris pendant quelques temps, mais j'ai pas tenu. Je crois que j'ai tenu 9 mois et après, c'était pas possible.
Fatigue, t'as rattrapé ?
La fatigue. Je faisais, je crois, 4 heures et demie de transport par jour, plus des horaires qui étaient quand même déjà assez conséquents. Un peu frustrant d'arriver à Blois, d'avoir une maison avec un jardin et puis de quasiment pas en profiter. En
fait. Donc, contrairement à beaucoup de gens, toi, tu changes de métier non pas parce que ça va plus, non pas parce qu'il y a un burn-out au bout du nez qui te pend au nez, mais plus parce que la vie a fait que la province s'est imposée à toi.
La province, c'est une envie qu'on avait depuis longtemps avec mon mari, mais c'est pas toujours évident, surtout quand on est deux, de bouger comme ça. Et là, ça a pu se faire et on est très contents tous les deux, mais on est deux parisiens ni l'un ni l'autre, en fait. Donc, on était sur Paris parce que c'est là que se trouve le travail. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait partir en province.
Quand tu t'es mis à ton compte, tu t'as posé ta démission ou négocié ton départ, je ne sais pas, tu nous diras si tu en as envie, mais tu t'es retrouvé avec un arrêt total et tu as commencé ton activité ici ou tu as commencé à travailler un peu pour ici tout en lâchant doucement ton travail.
Alors, il y a eu pas mal de péripéties pour arriver à la fin de mon contrat de travail, mais j'ai démarré de zéro.
Donc, quand tu démarres de zéro, tu n'as pas l'expérience d'être ton propre chef d'entreprise ?
Jamais. Et c'est quand même un métier aussi à part entière et bien différent. Non seulement ça, mais aussi, moi, j'ai beaucoup travaillé en interne et donc avec pas de notion de prix et de tarifs. Bon, des devis, j'en faisais pas mal parce que j'ai travaillé en imprimerie aussi et j'ai fait partiellement le métier de deviseur aussi, mais toute la partie prospection, etc., commerciale, pour moi, tout ça est très nouveau, enfin, était très nouveau.
Est-ce que tu as appelé au secours, tu as demandé qu'on t'aide, qui est venu t'aider? Comment ça a démarré?
Je me suis beaucoup renseignée sur Internet dans un premier temps. Je me suis affiliée au syndicat de la profession, France Design. Et j'ai eu pas mal de réponses à mes questions déjà. Et puis après, j'ai d'autres amis graphistes. Donc j'ai pu avoir aussi quelques petits conseils de leur part.
Au niveau institutionnel, comment ça s'est passé? Tu es passé par une période où t'es rémunéré par le chômage pour faire le lien, enfin, comment
ouais,
ça s'est passé?
Oui, tout à fait. Ouais. J'ai eu un accompagnement qui arrive à sa fin là, ce mois-ci.
Tu t'es pas du tout retrouvé à te dire, bon là je balance tout, t'as eu quand même des garde-fous et,
oui, oui,
pour t'en sortir.
Oui, c'était quand même un peu sécurisé.
C'est bien. T'as pu profiter du fait de suivre ton conjoint? Parce que ça fait partie des facilitations.
Je travaillais dans le privé, hein, donc non, ça n'existe pas.
Est-ce que tu as besoin de te former à nouveau, de revoir ou ton métier avec des formations que tu n'avais encore jamais faites ou vraiment juste uniquement sur le côté administratif?
Alors, je me suis pas mal formée sur tout ce qui est administratif, commercial, marketing, un peu avec le BGE. De base, j'ai un BTS Commerce International, donc j'avais quelques souvenirs lointains. Mais j'ai surtout voulu, tout au début de mon activité, me former à la communication responsable. En fait, j'ai suivi une formation qui s'est allée sur quelques mois. Et c'était des modules de 2 à 3 jours, tous les 15 jours, où j'allais sur Paris. Voilà, une super formation que je conseille à tous et à toutes.
Ta particularité, donc, c'est d'être graphiste, certes, mais ton moteur... C'est pas que le design, en fait.
Graphiste, ça englobe beaucoup de choses. On a l'impression que c'est un métier artistique, c'est aussi un métier technique. Et puis, il y a aussi une part de commercial, de marketing, de stratégie. Donc, c'est un métier assez complet.
Comment tu t'es positionnée quand tu as décidé de te mettre à ton compte? Tu parles d'une nouvelle formation sur ce qui est éco-responsable. Et toi, quand tu te présentes, comment tu te présentes par rapport à ton métier? Est-ce que tu as une niche? Est-ce que tu as envie de travailler particulièrement selon des techniques particulières, avec des clients particuliers?
Alors, des clients particuliers, non. J'aime bien travailler avec tout type de clients, toute taille, toute activité, parce que c'est ce qui m'enrichit aussi. J'apprends aussi au fur et à mesure en rencontrant de nouveaux métiers. Par contre, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, moi, c'était d'aligner plus mon métier avec mes valeurs. Et je me suis rendu compte que quand on était graphiste, on intervenait en amont des impressions, notamment, et on avait aussi un rôle de conseil. Et on pouvait également sensibiliser nos clients à l'impact de la communication qu'on va montrer. Donc ça peut être l'impact écologique, donc avec l'éco-conception, mais c'est aussi l'impact social avec le type d'imagerie qu'on peut montrer, avec les messages qu'on peut véhiculer. J'ai eu envie de m'orienter plutôt dans ce sens.
Concrètement, ça s'illustre comment quand tu accompagnes sur une publication, que ce soit une carte de visite pour partir de l'objet le plus simple, je dirais, tout à l'heure tu me montrais un peu tout ce que tu avais comme publication. C'est toi qui vas aller leur dire, ça serait plus intéressant de partir vers tel papier, vers tel an?
Alors, je propose l'accompagnement à mes clients en tout début de projet, parce que ça a un coût, et donc il faut qu'ils soient aussi OK sur la chose. Mais après, même si mon client refuse l'accompagnement, moi, j'ai quand même un rôle de conseil. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui ne me semble pas logique ou pas soutenable, j'en fais part de toute façon à mes clients. Mais c'est vrai que la recherche de papier, la recherche d'imprimeur, la recherche de format ou de finition, ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut que le client soit 100% OK avec ça. Et parfois, sur le premier projet, ça ne marche pas forcément. Mais souvent, l'envie vient après, quand on a été un peu sensibilisé.
Comment on s'en sort par rapport à l'impression, par exemple, en ce moment, où on a l'impression que beaucoup de livres et beaucoup de choses sont imprimées ou dans les pays de l'Est ou carrément dans les pays asiatiques? On peut, à l'heure actuelle, imprimer en France?
On peut imprimer en France, il y a des tas d'imprimeurs. Après, il faut bien se renseigner. L'idéal, c'est de pouvoir aller sur place pour visiter l'imprimerie. là on est un peu sûr. Mais après, c'est vrai que si on commande en ligne, on n'est jamais sûr à 100%. C'est parfois même pas du tout indiqué où va être imprimé le document, sur certains sites en tout cas.
D'accord, il y a juste l'obligation de mettre où ça a été imprimé sur les livres alors, c'est ça?
C'est l'obligation du nom de l'imprimeur, mais après...
Que le nom de l'imprimeur, j'étais persuadée qu'il fallait mettre dans quel pays c'était imprimé les livres, tu vois.
Alors moi, je ne suis pas spécialisée dans les livres, mais je ne pourrais pas te dire sur les livres. Mais moi, sur l'ensemble des documents, c'est le nom de l'imprimeur qui doit figurer.
Est-ce qu'on peut jouer, bien sûr, sur le choix du papier, on imagine, et sur le choix de l'encre aussi?
Alors, le choix de l'encre, ça dépendra principalement de l'imprimeur, comment il est équipé. Ça peut dépendre aussi des quantités. Quelque chose qui est imprimé en petite quantité va être imprimé en numérique. Sur de plus grosses quantités, on va être sur de l'offset, et donc on aura le même type d'encre.
Donc tout ça aussi, c'est des choses auxquelles tu t'es formé au fur et à mesure de ton métier. Quelque chose que tu as revu encore plus ces derniers temps?
J'ai forcément revu un peu plus, puisque avant, j'avais toujours les mêmes imprimeurs, donc je connaissais leur façon de travailler, etc. Là, je suis amenée à travailler avec différents imprimeurs. Quand on met un peu le nez dans l'éco-conception, ben, forcément, on a envie de creuser un petit peu plus aussi.
Tu te déplaces peut-être encore chez les imprimeurs pour voir comment ils travaillent?
Alors, pas chez tous les imprimeurs. Parfois, ils sont un petit peu loin. Parfois, c'est mon client qui est loin et qui souhaite que l'impression soit faite à côté de chez lui. Donc, ce qui est logique, hein, en termes de coût de transport. Donc, je me déplace pas toujours, mais j'aime bien, quand je peux, pouvoir discuter avec le chef d'atelier ou avec quelqu'un de l'imprimerie qui va pouvoir me renseigner plus précisément.
Comment se répartit une journée de travail pour toi, si tu voulais partir d'une journée type? J'imagine que tu n'as pas forcément de journée type, mais quels sont les gros pôles d'activité dans ton activité?
Alors les journées types, il n'y en a pas du tout. Je dirais, il n'y a même pas de semaine type ou de mois type. C'est très variable. Je m'adapte sans arrêt. J'essaie de faire un planning à peu près, mais... Voilà, j'ai des clients qui parfois mettent un peu de temps à valider, d'autres qui sont plus pressés, donc il faut jongler.
Qu'est-ce que tu peux te retrouver à faire dans ton planning qui n'en est pas un?
Dans mon planning qui n'en est pas un, donc de l'opérationnel, c'est-à-dire soit de la création, par exemple pour des logos, des chartes graphiques, des affiches, soit plus de la mise en page. Je fais beaucoup de veille aussi, je regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche. Et puis j'ai toute la partie aussi chef d'entreprise. Donc, ma propre publicité, et puis un petit peu d'administratif, de la prospection, on s'ennuie jamais.
Je posais la question la semaine dernière à Maud, qui est coach sportive. Comment ça se passe au niveau de ton petit codir personnel? Vous vous entendez bien entre ta petite voix financière, ta petite voix créative, ta petite voix communication, ça va?
Oui, globalement, ça va. On se ressemble à peu près, donc on s'entend bien.
Je lisais l'autre jour et ça m'a beaucoup amusée. Une femme a pris l'habitude d'écrire dans un carnet, du point de vue de chacun de ces petits personnages de codir qu'elle a, les besoins de son entreprise. Donc en fait, elle se met dans la peau, entre guillemets, en tout cas, du point de vue de... Et elle écrit, voilà, moi en tant que directeur financier, j'ai besoin qu'on développe ça, 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 ça. Et puis après, elle peut faire, en se relisant, elle fait intervenir un peu les autres parties d'elle-même pour aller chercher la cohérence interne. T'as des stratégies, toi, pour t'en sortir?
Alors, pas du tout, j'ai pas du tout de stratégie. Je trouve cette stratégie assez drôle et peut-être efficace. Moi, non, j'ai pas de stratégie. Non, je fais un peu au feeling ou en fonction de l'emploi du temps, des urgences. Je m'adapte, mais ni de planning fixe, ni de... Je dirais que quand même, la créative prend un peu plus de place. L'opérationnel prend pas mal de place aussi. La partie comptable, chef d'entreprise, a plus de mal à s'imposer et à trouver du temps.
Au bout de 3 ans, tu peux commencer à déléguer certaines de ces fonctions?
Financièrement, non. Quand ça sera possible, oui, je pourrais envisager de déléguer tout ce qui m'intéresse un peu moins, tout ce qui est administratif, par exemple.
Pour la communication, tu utilises quel biais? Parce que bon, tu es quand même un métier de communication, finalement, quelque part. En tout cas, tu donnes aux autres les moyens de communiquer. Pour toi, tu t'appuies sur quel support pour communiquer sur ton activité?
J'ai un site internet, graphiliance.fr. J'ai un compte sur Behance, qui est la plateforme d'Adobe. J'ai un compte Instagram. J'ai un compte Facebook. J'ai un compte LinkedIn. C'est déjà pas mal.
Comment tu arrives à nourrir tout ça?
J'ai du mal à être régulière, j'ai du mal à publier souvent. En général, je profite des périodes un peu plus creuses pour publier, mais là, je me rends compte que je n'ai pas eu de période creuse depuis quelques temps et que du coup, je publie beaucoup, beaucoup moins. Donc, ça pourrait être quelque chose, effectivement, à envisager de déléguer aussi à l'avenir.
Est-ce que tu sais tes clients, quand ils arrivent, s'ils arrivent plus par le bouche à oreille ou justement le fait que tu sois visible sur les réseaux ou sur ton site internet, est-ce que tu as cette notion-là de où viennent tes clients?
Principalement, mes clients viennent de mon ancien réseau. Donc, c'est des gens pour qui j'avais déjà travaillé, qui sont venus me voir quand je me suis mise à mon compte. Donc, je dirais que c'est peut-être 80% des clients. Mon ancien réseau plus le bouche à oreille, on va dire que ça fait 80%. Le fait d'avoir été au BGE m'a rapporté aussi un peu de clientèle en local. Et puis, sur les réseaux, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas trop. Alors, je ne le pousse pas non plus. Hein. C'est plus pour avoir une présence que pour capter de la clientèle. LinkedIn, peut-être un petit peu.
T'as une clientèle qui est très diversifiée?
Oui. Je peux travailler pour des très grands groupes et puis je peux travailler aussi pour des entrepreneurs. Je peux travailler pour des associations, des collectivités.
Depuis que tu t'es mise à ton compte, quel était ton plus gros challenge?
Peut-être j'ai créé une verrière pour le Crédit Agricole qui faisait, je crois, 12 mètres de long sur 3 étages de haut. Et c'était en vitrophanie, il fallait décorer toutes les vitres du bas, des 3 étages sur 10 mètres de long.
Qu'est-ce qu'il y a justifier cette création-là, j'en bafoue, je suis désolée.
C'était une nouvelle agence qui se montait et qui était un concept qui regroupait plusieurs agences et c'était le fait d'avoir une communication très visible depuis la rue en fait.
Donc les gens qui arrivent de la rue, ils ont cette verrière sous laquelle il y a toutes ces informations
concernant l'activité. C'était une vitrine, c'est comme une vitrine sur 3 étages. Alors c'était un peu challengeant parce que comme c'était une verrière, il y avait les barres qui empêchaient la visibilité d'une partie du visuel. Donc c'était assez challengeant.
Sur un projet comme ça, tu peux passer combien de temps?
Alors je ne sais plus. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez, ça peut être chronophage en fait. Après, ça peut aller très vite aussi si le client valide le concept dès le départ et qu'on peut décliner derrière assez vite. Mais parfois, dans les grands groupes, quand il y a plusieurs intervenants qui décident, les validations peuvent être longues.
Oui, il y a les délais administratifs internes qui t'échappent complètement.
C'est ça.
Donc là, on a un très gros challenge qui est à la fois technique.
Oui.
Et on va dire administratif, parce qu'il a fallu jouer de patience en attendant les validations.
Le projet s'est fait assez rapidement.
D'accord. Donc c'est vraiment le défi était technique en fait.
Ouais.
Je sais qu'avec la BGE, tu as forcément côtoyé des auto-entrepreneurs comme toi. Il y en a qui t'approchent et qui te disent, moi je me lance, mais j'aimerais quand même investir dans ma communication. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là, en premier?
Investir dans sa communication, c'est un investissement. Et donc, il faut vraiment mesurer le besoin. C'est à l'entrepreneur de savoir, par rapport à sa stratégie, si c'est important pour lui, si c'est le bon moment. En général, on a tendance à penser qu'une identité visuelle, il faut l'avoir tout de suite au départ. Je pense que ce n'est pas forcément toujours le cas, parce que quand on est auto-entrepreneur, parfois, en mettant en route son activité, elle peut évoluer, et donc l'identité peut ne plus coller à celle de départ. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément obligatoire dès le début d'avoir une identité visuelle. Après, il faut communiquer dès le début, par contre. Voilà, mais je pense qu'à un moment donné, quand on veut soit prendre de l'ampleur, soit capter une clientèle plus haut de gamme, je pense que là, il faut faire appel à un professionnel.
L'identité visuelle, alors j'ai une petite idée derrière la tête parce que je sais que tu as fait l'identité visuelle du salon qui bouge.
Oui, de Stéphanie. Oui.
Tu pars tout de suite dans l'idée que cette identité, elle va pouvoir être déclinée sur plein de supports différents.
Ah oui, c'est important. C'est même un des prérequis de l'identité visuelle. Et avec Stéphanie, par exemple, dans les réunions préparatoires, elle savait exactement où elle voulait aller, ce qu'elle voulait communiquer, comment. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, comment ça serait utilisé, etc. Donc,
cette identité visuelle, elle est pensée pour être utilisée sur plein de supports oui. différents. De toute façon, elle est pensée pour durer, on est bien d'accord.
On est complètement d'accord parce que l'idée, ce n'est pas de changer d'identité visuelle tous les deux ans.
Et justement, dans un monde où on est très marqué par les modes de couleurs et des choses comme ça, comment on fait quand on est graphiste pour envisager quelque chose qui va durer dans le temps ou qui ne va pas être pris par cette vague de la forme à la mode en ce moment, c'est ça, la couleur à la mode en ce moment, c'est ça. Comment on travaille avec
c'est
ça?
C'est une très bonne question parce que il y a vraiment des modes dans le graphisme aussi et le client peut être attiré par ce qui est à la mode, mais il faut se dire que comme dans le prêt-à-porter ou autre, ce qui est à la mode maintenant ne le sera plus dans quelques années et au contraire, ça pourra paraître très daté. Donc, pour avoir quelque chose de plus intemporel, il faut avoir déjà un bon concept au départ. Il faut que ça colle vraiment à l'entreprise. Et puis, il faut épurer au maximum. Je pense que c'est un peu le secret pour une identité visuelle qui va durer.
Épurer
et aller à l'essentiel.
Pour le choix des couleurs, on est bien d'accord qu'on ne part pas sur le choix des couleurs de la personne, mais de son entreprise.
Et de sa clientèle aussi. Souvent, le chef d'entreprise va vouloir une identité qui lui ressemble. Mais il faut penser que cette identité, elle est plutôt pour que les clients comprennent l'entreprise et comprennent le concept, en fait. Donc, il faut penser pas seulement à soi, mais à ses clients aussi.
Comment on arrive à connaître les couleurs de ses clients, les couleurs et les formes qui attirent ses clients, en fait?
Par rapport aux valeurs, par rapport à l'activité de l'entreprise aussi. C'est un ensemble. Pas que la couleur, hein, ça peut être la typographie, ça peut être le système graphique.
Oui, la typographie, on peut en parler. C'est quelque chose qui est quand même énorme. Il y a un choix typographique qui est plutôt assez hallucinant. Enfin, pour m'être un petit peu intéressée à cette partie-là, dernièrement, j'ai découvert qu'en fait, choisir une typographie est extrêmement difficile.
Ah oui, c'est difficile, c'est long, ça nécessite un peu de connaissances aussi. C'est pour ça que le graphisme, c'est un métier quand même qui est très complet.
Avec donc un besoin d'aller à la rencontre de son client. Ça peut prendre du temps avant de proposer un produit ou tu as juste un rendez-vous, on va dire, d'une heure et après tu commences à proposer des choses et après tu affines. Comment ça se passe?
Ça dépend beaucoup des projets, ça dépend des clients, ça dépend de l'inspiration aussi. Il y a des moments où on est un peu plus créatif que d'autres. Ça prend généralement pas mal de temps et parfois ça va très vite, parfois c'est évident. On parlait de Stéphanie avec le salon qui bouge, je crois me rappeler que ça a été assez rapide, mais parfois ça peut être un peu plus long. Il n'y a pas de règle.
Et quand tu fais tes créations, quand tu te mets à créer pour ton client, tu vas aller travailler uniquement sur ordinateur ou tu vas aussi aller prendre un papier, griffonner, sortir tes encres? Elle se passe où, cette imagination chez toi, cette
création? Alors, l'inspiration, elle peut venir de partout. Alors, elle peut venir de l'ordinateur, elle peut venir effectivement d'un travail plus manuel, plus graphique, d'expérimentation, mais elle peut venir aussi de se promener en ville et de voir des choses, d'aller voir des expositions, de lire des livres. Peut-être parfois un film peut donner une idée. Elle peut être partout. Ça peut être la nature aussi.
De ce côté-là, t'es gâtée. Est-ce que, en parlant de nature, est-ce que tu développes, toi, quelque chose pour garder un rythme, pour aller bien et pas te laisser déborder par le travail?
Alors, c'est une très bonne question. J'essaie de ne pas me laisser déborder par le travail, mais j'ai parfois un peu de mal. La chose qui peut me faire du bien, effectivement, c'est de... Bah, je vois par exemple si ça peut m'arriver d'être coincée sur une idée, de voir que ça n'évolue pas comme je voudrais. Le fait d'aller faire un petit tour, moi j'ai la chance d'habiter à côté de la forêt, donc d'aller faire un petit tour en nature, ça peut permettre de penser à autre chose. Et quand on pense à autre chose, parfois l'idée vient derrière.
Tu dirais que la créativité, elle a besoin de se nourrir de la vie, de tout ce qui t'entoure.
De tout ce qui m'entoure, ça peut être aussi des petits exercices qu'on peut faire au quotidien. J'ai lu récemment un livre de Guillaume Lamarre qui s'appelle « L'étincelle du créatif » et qui recense 365 types d'exercices qu'on peut faire pour entraîner sa créativité, en fait. Un par jour. Donc, j'avais fait ça l'été dernier, c'était un petit jeu. De temps en temps, j'ouvrais la page et je faisais un petit exercice comme ça.
Nourrir sa créativité.
Oui, mais c'est important de la nourrir. Ouais.
Donc, c'est un métier dans lequel tu ne t'es absolument jamais ennuyée.
Ah, on s'ennuie pas du tout. C'est technique, c'est créatif, les projets sont variés, les logiciels évoluent tout le temps, les techniques évoluent tout le temps. Moi, comme je suis passionnée, j'ai toujours envie de faire de nouvelles choses. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais développer à côté. Ouais, on s'ennuie jamais.
Si une jeune venait te voir, une jeune ou un jeune, hein, venait te voir... Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à son envie de devenir graphiste? Quel serait ton premier réflexe?
De lui dire que c'est un beau métier, que c'est un métier intéressant, que c'est un métier qui est assez prenant. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est un métier artistique où on va griffonner un petit peu ou faire un petit fichier en 10 minutes. Il y a tout un tas de choses autour, mais je crois que c'est un métier de passion aussi. Il faut être curieux.
Un métier de passion.
Un métier de passion, je pense.
Merci beaucoup d'avoir témoigné, Géraldine.
Merci à toi, Sophie.
Et puis, je te souhaite une belle rentrée, mais bon, je crois que tu travailles déjà là cet été, ça ne s'est pas arrêté.
Oui, ça ne s'est pas arrêté, donc je suis déjà dans la rentrée et c'est tant mieux, c'est une bonne chose.
Au revoir.
Merci.
Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.